Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews NFL 2021 de Touchdown Actu. Un jour, une preview, les Pittsburgh Steelers au programme d'aujourd'hui. À mes côtés, Raphaël Masmejean, bonjour.
Salut à tous.
Victor Roulier, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Et le podcast vous est présenté par Wilson. Vous connaissez probablement The Duke, le ballon officiel de la NFL, mais Wilson, c'est aussi le GST, le ballon de foot US le plus avancé du marché. Élaboré pour un grip optimal, c'est le ballon le plus vendu aux États-Unis. Et vous le retrouvez aussi sur Decathlon.fr. On remercie Wilson, évidemment, de nous soutenir. Messieurs, nous sommes réunis donc pour parler des Pittsburgh Steelers, l'équipe de Ben Roethlisberger, qui a connu une intersaison plutôt calme sur les mouvements, en tout cas du côté des arrivées. Kalen Ballage, Joe sur la ligne, Trey Turner, BJ Finney toujours sur la ligne, Melvin Ingram est arrivé aussi assez tard d'ailleurs, Arthur Mollet le cornerback et Miles Kilbrew le safety. La draft, évidemment, c'était Najee Harris le coureur et Pat Freiermuth le tight end qui étaient les deux événements. Et puis du côté des pertes, il y a eu pas mal de départs. James Conner, Vance McDonald, Alejandro Villanueva, David De Castro, Matt Feiler, Marquis Pouncey, donc ça fait beaucoup de linemen, Bud Dupree, Avery Williamson, Vince Williams en défense, Steven Nelson, Mike Hilton et Sean Davis. Victor, est-ce qu'on est face à une équipe qui fait partie des favoris pour le titre, mais dont on parle trop peu parce que les Browns sont à la mode, ou est-ce qu'on fait face à une équipe qui s'est peut-être beaucoup trop affaiblie pendant l'intersaison?
Moi, je vais aller sur la deuxième option. Pour moi, là, ça commence à devenir trop faible. Alors, toute chose égale par ailleurs, on parle des Steelers, on parle d'une équipe qui est haut du panier depuis un moment, qui est extrêmement bien coachée. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne vont pas aller en play-off. J'empiète déjà.
T'annonces de victoire, quoi, c'est ça?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, oui, passer des tours en play-off, ça risque d'être très compliqué. Ils ont quand même des gros points forts, parce que traditionnellement, on commence par ça. Et le plus évident, c'est le front seven. Le front seven, c'est sûrement un des, peut-être même le meilleur de NFL, parce que la première ligne, Stephon Tuitt, Tyson Alouaou, Cameron Hayward, déjà, c'est ce qui se fait de mieux, en tout cas, en système 3-4. Et puis, bon, TJ Watt, qui est quand même, entre guillemets, un des trois meilleurs défenseurs de la ligue, Devin Bush, Joe Schobert, enfin, Alex Highsmith, il y a que du talent. Enfin, les sept noms, sont des joueurs de haut talent. Donc, on peut pas passer à côté de ça, qui est pour moi l'arme principale de cette équipe. Il y en a d'autres, hein, on y reviendra. Il y a des jolis receveurs. Il y a évidemment Ben Roethlisberger qui reste un super quarterback, mais ce front seven, il est juste inégalable pour moi.
Raphaël, il a un peu piqué mon intérêt. Victor, est-ce qu'on lui demande tout de suite ce qu'il reproche aux Steelers? Parce que tu sais, tu sens qu'il en a sous le pied, là. Et moi, on reparlera des qualités après, mais je sais pas, est-ce que tu m'autorises à rester avec lui?
Allons-y.
Parce que là, ça m'intrigue. Qu'est-ce qui te fait si peur, Victor? Parce que là,
la ligne offensive.
Voilà.
La ligne offensive. Pour moi, la ligne offensive, elle peut te faire perdre une saison, là. À ce niveau-là, alors, tu perds De Castro, tu perds Pouncey, tu perds Villanueva. Déjà, ça fait mal. Mais alors, ce que tu rajoutes, c'est des joueurs, certains étaient déjà là, mais Okorafor, honnêtement, on ne sait pas ce que ça donne vraiment à gauche sur le long terme. Des Dodson, des Finney, des Azenauer, des Turner, tu les prends tous, sont tous interchangeables. Hein. Tu peux en utiliser 12 dans la saison si tu veux. Je ne suis pas sûr que tu perdes particulièrement au niveau. Trey Turner, j'adorais le joueur, mais alors s'il fait que ce qu'il nous a montré l'année dernière, c'était pire que catastrophique. Donc, il y a un moment, il va falloir qu'il se réveille le garçon. Non, moi, je suis super inquiet. Honnêtement, il n'y a pas un joueur de cette ligne qui, pour moi, est un titulaire sûr en NFL.
En plus, c'est hyper paradoxal parce que l'an dernier, c'était la meilleure ligne de la NFL avec seulement 14 sacks autorisés, loin devant le deuxième qui était à 21. Donc statistiquement, en tout cas, hein, sur la protection de passe, ils étaient
statistiquement
premiers.
Après, ils étaient aidés par un jeu qui était fait par des passes très rapides de Roethlisberger pour Claypool et tout. Donc le jeu aidait à ça aussi, mais bien sûr.
Mais voilà, moi je te pousse le.
Villanueva, c'était des super joueurs.
Moi, je te pousse le paradoxe statistique parce que c'est vrai que, en effet, c'est quatre titulaires partis. Raphaël, on peut partager là pour le coup cette inquiétude.
Ah ben on le partage complètement. C'est la pire sur le papier en tout cas, parce que après on sait toujours des fois le coaching staff, le play call fait que t'arrives à tirer mieux que les individualités qui composent une escouade, mais sur le papier c'est la pire ligne offensive de la ligue. Et forcément c'est pas rassurant d'offrir à un quarterback de cet âge-là la pire ligne offensive de la ligue quand tu vois que l'an dernier il y avait eu quelques pépins un peu physiques, que déjà ça demandait à Roethlisberger de jouer très très vite, d'avoir un relâche de ballon très rapide. Là en plus tu lui changes son centre avec qui il jouait depuis X années, même s'il y a eu des saisons où Pouncey était blessé, donc il a pas toujours joué qu'avec lui. Mais bon, c'est vrai que mettre son quarterback dans ces conditions-là à ce moment-là de sa carrière, ça c'est étonnant, ça a de quoi inquiéter. Surtout que son nouveau coordinateur offensif, il y a quand même des choses qui sont pas forcément du style de Ben Roethlisberger. Donc bon, les deux profils sont pas forcément les plus complémentaires sur le papier. Oui, c'est forcément, je rejoins Victor sur le fait que c'est le plus gros point faible. Et là, c'est tellement criant qu'en fait, presque ça gomme et ça efface les autres potentiels points faibles, tellement celui-là est criant. Tu ne peux que te concentrer là-dessus, quoi.
C'est sûr qu'en plus, Ben Roethlisberger n'est pas tout à fait le roi de la mobilité depuis quelques temps. Tu sais, t'as l'impression qu'il y a un bip bip de camion, tu sais, quand il se met à reculer maintenant, tellement il est lent. Mais donc oui, c'est un problème majeur et c'est presque, j'ai envie de dire, c'est presque du gâchis s'il n'a pas le temps de lancer, parce que Juju Smith-Schuster, Chase Claypool, Diontae Johnson, plus le rookie Pat Freiermuth et Eric Ebron. Par contre, il manque pas de matos. Même le rookie coureur Najee Harris, alors on va pas débattre sur la position où il a été sélectionné, maintenant il est là, donc on parle de la qualité. Il y a quand même une sacrée escouade de skill players, de cibles, de coureurs, etc. Pour le coup, là, il est armé, quoi. C'est dommage d'avoir cette ligne-là qui pourrait tout gâcher, en fait, Victor.
Oui, ben je te rejoins. Après, c'est vrai que Ben Roethlisberger est plus mobile comme il a pu être, même s'il a jamais été extrêmement mobile. Par contre, il a quand même un release, une sortie de balle, une mécanique de lancer qui est assez rapide. Donc, il peut compenser un petit peu avec ça. Mais c'est sûr que Claypool, bon, le fameux Claypool qui a illuminé la ligue l'année dernière, qui a un corps de tight end et qui joue receveur, Eric Ebron, on peut en penser ce qu'on veut, mais ça reste un très bon joueur. Juju Smith-Schuster, Diontae Johnson. Et puis, tu sais, on a toujours ces traditions dans les équipes. Tu parlais hier des Saints et de leurs traditions au niveau des receveurs. Les Steelers, c'est un peu pareil. Hein.
Ah ouais.
Ils sortent toujours des receveurs du troisième, quatrième tour qui deviennent des super joueurs dans la ligue.
Les Saints, les Steelers sont à la draft de receveurs, ce que les Patriots ne sont pas à la draft de receveurs.
Oui. Là, on a deux antagonismes. Hein. Là, on est bien d'accord. Moi, je leur fais confiance là-dessus. Après, Najee Harris, je le garde pour un petit peu plus tard dans la pastille.
D'accord, je vois où tu veux en venir.
Mais du coup, juste, c'est ça qui, je pense, a un potentiel d'être assez frustrant pour les supporters des Steelers cette saison. C'est, il y a du matos en attaque clairement pour Ben Roethlisberger, mais il y a ce petit risque qu'en fait, t'es pas le temps de l'utiliser. Et ça, bon, on verra plus tard, mais ça pourrait de vite devenir le calvaire des fans à regarder. Ça pourrait vite le devenir.
Alors, il reste une chose dont on n'a pas parlé. On a parlé de l'attaque en global, on a parlé du front seven. Est-ce que cette couverture aérienne, on la met dans les points faibles ou est-ce qu'on la met dans les facteurs X? Parce qu'il y a eu pas mal aussi de mouvements avec Steven Nelson et Mike Hilton qui sont partis. Donc, il y a un peu de renouvellement. Alors, il y a toujours Minka Fitzpatrick, qui est un très, très bon safety. Il y a toujours Joe Hayden qui prend un peu d'âge. Autour, c'est un peu plus incertain. Victor.
Oui, je reste confiant. Moi, je reste confiant. Je reste surtout confiant sur le safety, en fait. Edmonds, Fitzpatrick, pour moi, c'est... Enfin, Fitzpatrick est un des meilleurs safety de la ligue et Edmonds complète très bien. Alors, c'est vrai que c'est plus... le duo fait plus violence que couverture pure, mais ils font largement le travail. C'est un très bon duo. Oui, on peut avoir un peu peur parce qu'il y a le départ de Steven Nelson, c'est vrai, au poste de cornerback numéro 2. On en pense ce qu'on veut, mais Steven Nelson, t'es plutôt bon. Là, ça va être Sutton, je pense. Donc bon, ça reste du beau niveau, quoi. J'en ferai pas une force parce que justement, au niveau des cornerbacks, on en a un petit peu trop vieux et un petit peu trop jeune, mais j'en ferai pas une faiblesse non plus.
Ouais, surtout avec un front seven comme ça, bon.
C'est oui,
ça.
Pour moi, cette défense, ça restera le point fort global de cette équipe.
Alors donc, c'est quoi le facteur X?
Ben moi, j'en ai deux, mais il y en a un qui avait l'air d'être un peu celui de Raphaël au niveau de coordinateur offensif, donc peut-être que je vais lui laisser un peu, mais Najee Harris. Najee Harris, parce que Najee Harris, donc, si on fait très vite, c'est une sorte de Derrick Henry qui sait aussi recevoir le ballon. Bon, après, est-ce qu'il aura le niveau de Derrick Henry? C'est toujours problématique avec la projection des prospects. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un joueur extrêmement puissant, et même si sa ligne ne lui fait pas des trous béants pour s'infiltrer, il peut, par sa puissance et par ses mouvements, créer les 2, 3, 4 yards après contact qui font que, au lieu d'une 3 et 1, bah, t'as un first down. Donc, je pense que Najee Harris, globalement, il arrive dans une équipe qui avait un jeu de course désastreux l'année dernière, qu'on le veuille ou non, malgré une ligne qui, pour le coup, était bonne. Et là, il a Ben Roethlisberger, enfin un coureur qui normalement devrait le soulager, parce que quand on a un bon coureur, ça soulage aussi le quarterback, parce que les défenses sont obligées de faire attention au running back. Donc, je pense que Najee Harris a le potentiel pour faire une très bonne saison, et faudra pas le juger sur ses statistiques pures, parce qu'encore une fois, la ligne va pas l'aider, mais il faudra juger sur cette capacité à créer des yards après contact, à réussir à faire mieux que ce que la ligne lui donne.
Raphaël, donc Matt Canada?
Oui, effectivement, c'est un peu lui que j'avais en tête. Son entente avec Ben Roethlisberger, on sait que par le passé, Ben Roethlisberger a eu des fois des relations compliquées avec ses coordinateurs offensifs, malgré le succès clairement de l'attaque de Steelers pendant des années, hein, parce que c'était... Il y a eu des campagnes un peu ratées en fin de saison de la part de Pittsburgh, mais globalement, c'est une attaque qui cartonne depuis plusieurs années. Donc,
bon, après, ouais, il a eu Todd Haley une fois, hein, donc ça favorise les engueulades.
Oui, bien sûr. Mais tu vois, même quand il y avait des engueulades, ça marchait globalement. Hein, ouais. T'as jamais eu une saison catastrophique offensivement de la part de Pittsburgh. Donc, c'est pas tant la relation entre les deux, même si ça sera forcément à surveiller, mais c'est vraiment cette alchimie, cette osmose capable de trouver, parce que Ben Roethlisberger, on est plus sur un quarterback qui aime beaucoup jouer en shotgun, qui fait pas trop bouger, qui fait pas trop de motion en pré-snap avec ses joueurs. Là, Canada est plutôt de cette école-là, avec beaucoup de mouvements avant le snap. Sur une ligne beaucoup de mouvements avant le snap, alors que tu as une ligne offensive de très faible niveau avec des joueurs pas forcément expérimentés, est-ce que tu risques pas aussi de multiplier des pénalités un peu bêtes? Bon, c'est des choses qui m'intriguent. Et puis, lui et son coach de ligne aussi, enfin, globalement, qu'est-ce qu'ils sont capables de tirer de cette escouade-là? Pour moi, ça fait, et tu disais, et c'est pour ça que j'aurais vraiment pas mis la couverture aérienne de Pittsburgh dans les facteurs X, c'est parce qu'en fait, ça sera pas un point fort, mais pour moi, elle est pas aussi déterminante, parce qu'il y a un niveau qui fera qu'elle sera suffisamment correcte. Et Pittsburgh, ça fait des années qu'ils ont pas forcément drafté de cornerback élite, mais par contre, l'équipe n'a jamais été catastrophique contre la passe, et je pense que ça sera le cas. Et donc, c'est pour ça que moi, c'est vraiment du côté du coordinateur offensif, voire même de la ligne offensive, le facteur X de cette saison pour Pittsburgh, clairement.
Eh ben écoute, moi je vais dire que mon facteur X, c'est Adrian Clem, K-L-E-2-M, parce que c'est le nom du coach de la ligne offensive des Steelers que je viens de trouver sur Google, je ne vais pas mentir parce que j'avais aucune idée de qui c'était, mais c'est lui mon facteur X, c'est le coach de la ligne offensive en effet. On l'a dit, parce que si l'attaque roule, il y a quand même des chances d'aller loin, quoi. Le calendrier, ça commence chez les Bills, donc ça commence dur. Hein. Les Raiders, les Bengals, à Green Bay ensuite, les Broncos, les Seahawks, repos en semaine 7. Ensuite, les Browns à l'extérieur, les Bears, les Lions, les Chargers à l'extérieur, les Bengals à l'extérieur, les Ravens, les Vikings à l'extérieur, les Titans, les Chiefs à l'extérieur, les Browns et les Ravens à l'extérieur. C'est du calendrier quand même très hardcore sur la fin. Ça se termine avec Ravens, Browns, Chiefs et Titans, hein, quand même. Donc, calendrier difficile. Ils ont débuté par un 11-0 l'an dernier quand même, hein, avant de s'écrouler. Ils ont perdu Bush, ils ont perdu Dupri en cours de route. L'attaque était descendue sous les 20 points par match en fin de saison. Ils s'étaient quand même bien écroulés. Donc, C'est difficile, c'est une équipe qui a quand même fini très très mal, qui s'est fait ensuite rouster par les Browns en playoff. Enfin, c'est voilà, on est. Est-ce que il y a un entre-deux hein, entre ce qu'ils ont vécu au début de la saison dernière et à la fin? Victor, à combien de victoires tu montes?
7.
Ah
7,
ouais?
7, 8.
Ok.
Ah ouais. Moi,
Ok.
je ne crois pas du tout à cette ligne. Et en
Ah, je m'y
plus,
attendais
c'est
pas.
vrai qu'ils ont quand même. Mais je sais que je l'ai dit d'ailleurs avant la pastille à Alain, ça va faire hurler parce que je suis assez violent là-dessus. Mais tu regardes le calendrier, ils ont quand même déjà quand même la division. Non, mais ils seraient en AFC Sud, je te dirais, ils peuvent en prendre 3 de plus. Mais enfin là, les Ravens 2 fois. Les Browns 2 fois, quand tu vois la ligne défensive des Browns, bon courage, hein. Ils vont passer une sale après-midi. Donc, je pense que déjà là, ça va être compliqué. Et puis, même le reste du calendrier me rend pas confiant pour cette équipe. Et du coup, en fait, au départ, je les avais un peu plus haut. Et puis, quand j'ai fait mes pronostics globaux sur toute la ligue, il y a un moment, il faut quand même qu'il y ait autant de victoires que de défaites. Et finalement, à ce jeu-là, c'est vrai qu'ils sont descendus dans cette division. Et du coup, j'ai aimé avec une fiche négative, même si, bon, quand on a un Tomlin et l'organisation Steelers, on a du mal à se dire que les Steelers vont être en négatif. Ça n'arrive pas souvent. Mais je pense que ça va être une saison difficile, une saison de transition.
Raphaël, est-ce que tu montes plus haut?
Eh ben non non mais j'étais étonné parce que sur le début de ce que disait Victor avec la possible saison de Harris, je pensais que du coup il les avait un peu plus haut que ça
Ouais, et puis avec le front
et c'est pour
seven,
ça que
avec.
ça m'a un peu surpris, je réagis comme ça, mais en vrai moi je les ai à 8 victoires,
Ok,
8
non.
potentiellement 9, mais
Wow.
tendu hein, tendu.
Ah ouais. Ah ouais,
Bah
vous avez
sincèrement je les
vraiment pas
vois
foi dans cette ligne défensive, ligne offensive, pardon.
non, et le calendrier je les vois pas forcément aller en gagner beaucoup à l'extérieur.
Ils
Je
sont
sais
pas
pas.
aidés par le calendrier.
Ah bah
Franchement,
ouais, ils ont un
ça fait
calendrier.
partie des équipes qui sont vraiment pas aidées.
Clairement, sur le calendrier, ils ont intérêt à faire le plein
Ouais.
dans le ventre mou là quand ils vont faire Vegas, Cincinnati, Green Bay, Denver, Seattle. Tu vois, tu peux en prendre. Il y a un enchaînement Chicago, Détroit, Chargers,
Et
Bengals.
même les matchs prenables qu'ils ont, ça peut être des pièges, hein, parce que
Ouais.
tu vas à Denver, suivant comment ça se passe, ta ligne offensive, ça peut vite tourner compliqué. Ouais, 8.
Eh bien, messieurs les pessimistes, je vais aller à 11.
Ah
Je
oui,
vais
à
à
11.
ouais, je
11.
vais
Ah
à
oui,
eh
d'accord.
ben, je vais à 11 quand
OK.
même. Je vais à 11 parce que moi, je crois dans cette défense. Je crois dans ces skill players. Je crois dans une intelligence collaborative entre Ben Roethlisberger et son nouveau coordinateur offensif. Non, et je pense que c'est une équipe qui est bien coachée généralement, même si Mike Tomlin n'est pas parfait. On l'a dit souvent, mais je peux aller à 11. Ça reste une des places fortes. Non, moi je vais rester quand même au-dessus de 10-11. Après, faut voir maintenant avec le match supplémentaire à 11, ça va être juste pour les playoffs. Enfin, ça va être lutte. Je leur garantis pas les playoffs non plus parce qu'ils sont dans une division très très forte. Donc voilà. Mais moi, je peux aller à 11 au niveau des victoires. Ouais,
On a une moyenne à 9, on va dire. On tranche
C'est ça, du
sur
coup,
9 à peu
ça
près.
fait autour de 9. C'est la fin de cette preview des Steelers. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. On vous rappelle que l'émission du jour vous était présentée par Wilson et son ballon, le GST, que vous retrouvez notamment sur decathlon.fr. Vous retrouvez la preview en version écrite avec le point de vue d'un autre rédacteur sur le site. Pour nous suivre, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram c'est @TouchdownActu en entier et le site c'est touchdownactu.com, TDActu.com si vous voulez aller plus vite. Merci beaucoup, Victor. Merci beaucoup, Raphaël. À demain pour une prochaine preview. Ciao, ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.